Et vous voulez comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps.
Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions m'assemblent.
11h23, Martin Carly, officiellement, bonjour.
Rebonjour, Mathieu.
Bon, autre argument des anti-vaccins.
Oui, qui tombe. Ouais. Non, et ça, c'est très important.
Il faut dire tombe aussi parce que c'est ça.
Oui, c'est très important ici. Puisque le mouvement global contre la vaccination prend chaque année un peu plus d'ampleur, malheureusement, c'est franchement terrible au niveau des conséquences potentielles et les effets sont très malheureux. Un de ces effets-là, par exemple, en 2015, on estime que aux États-Unis, c'est 10 à 15% des parents qui n'ont pas suivi le calendrier de vaccination recommandé par les instances gouvernementales. Donc, et on parle ici d'enfants de moins de 2 ans. Et une des craintes principales de ces parents-là, donc là où on touche la cible bien souvent dans le discours des anti-vaccins, c'est de dire, ben si tu donnes beaucoup de vaccins, parce qu'il y en a quelques-uns avant l'âge de 2 ans, si tu donnes tous ces vaccins-là à un enfant de moins de 2 ans, ben tu risques de forcer son système immunitaire à être débordé et à être moins efficace contre d'autres maladies qui ne sont pas couvertes par les vaccins, mais donc rendre ton enfant plus susceptible de contracter d'autres maladies.
Ouais.
Ça, c'est un des arguments là, qui touche la cible bien souvent.
Je pense qu'une des histoires les plus propagées était l'histoire du fameux vaccin qui pouvait provoquer l'autisme.
Ah oui, ça, c'est on va le rappeler, puis il y a une espèce d'épilogue à ça qui est pas le fun. Ça, c'est un ancien médecin, je dis bien ancien, parce qu'il a été, on lui a retiré son droit de pratique, là. Ouais, tout à fait. C'est un Anglais, le docteur Wakefield, qui avait effectivement fait un lien entre le vaccin RRO, donc rougeole, rubéole, oreillon, et la possibilité d'avoir l'autisme. Mais essentiellement, son étude était remplie de fausseté et de procédures extrêmement douteuses d'un point de vue scientifique. Et par la suite, l'article a été retiré du magazine en question, de Lancet, de mémoire.
C'était une publication très sérieuse.
Effectivement, il a carrément perdu son droit de pratique là, pour cette étude-là parce que ça avait été de la très mauvaise science et l'équivalent du Collège des médecins en Angleterre trouvait que non, on ne peut pas admettre un membre comme ça dans notre communauté. Donc, on lui a retiré le droit de pratique. Le problème, c'est que présentement, il est où, lui? Ben, il était aux États-Unis et on le voit souvent dans les cercles qui ont accès au président Trump ou aux gens qui sont proches de Trump et qui prônent des politiques là, anti-vaccination ou essayer de freiner les programmes de vaccination. Donc, il sévit encore. Je vais quand même, avant de passer à cette étude-là, rappeler qu'il y a aucun lien, et ça c'est hors de tout doute, entre quelques vaccins que ce soit et l'autisme. Ça n'a jamais été démontré. Mais on est encore en train de vivre sur les conséquences d'une étude frauduleuse et qui a été retirée. Mais ça, c'est un lien qui n'existe pas. Autre chose qui n'existe pas, la possibilité d'être plus susceptible de contracter des maladies si on est vacciné avant l'âge de 2 ans. C'est l'étude dont je vous parle aujourd'hui. Chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de plus de 900 enfants dans l'ouest des États-Unis. Et ces dossiers où ces enfants avaient été traités ou vaccinés dans 6 différents hôpitaux et cliniques reconnus aux États-Unis. Et on parle d'une période s'échelonnant de 2003 à 2013. Donc, c'est plutôt récent. Bien entendu. Et ils ont essentiellement fait quoi? Ben, ils ont comparé le dossier médical d'enfants qui ont été vaccinés et le taux de maladie de ces enfants-là, mais de maladies qui n'étaient pas couvertes par les vaccins qu'ils ont reçus, par rapport à un autre groupe d'enfants qui n'ont pas été vaccinés, mais aussi on a voulu voir est-ce qu'ils sont devenus malades eux aussi avec ces maladies-là qui étaient couvertes par des vaccins. Résultat, il n'y a absolument aucun lien entre le fait d'être vacciné avant l'âge de 2 ans et le risque de contracter d'autres maladies qui sont même pas couvertes par des vaccins entre l'âge de 2 et 4 ans. Il n'y a aucun lien. Donc, le fait de faire vacciner ton enfant ne le rend pas plus susceptible d'être malade par la suite. Et ça, là, premièrement, c'est publié dans le Journal of American Medical Association, un des journaux les plus sérieux en médecine aux États-Unis. Et il faut savoir que c'est pas surprenant. C'est le fun d'avoir ce résultat-là, mais il n'y a rien de surprenant là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, le bébé, lui, le nouveau-né, là, tu sais, quand il est dans le ventre de sa mère, il est dans un environnement stérile.
Ouais.
Quand il vient au monde, il arrive dans un monde qui est rempli à pleine capacité de bactéries, de micro-organismes de toutes sortes. Il est carrément assailli par des bactéries de toutes parts. Là. Ça peut être ingéré, ça peut être sur sa peau, dans ses yeux, ainsi de suite. Il y en a partout. Tout d'un coup, il y a plein de bactéries sur lui. Donc, le fait que d'imaginer que d'administrer 2 ou 3 vaccins à un bébé, ça pose un gros défi pour son système immunitaire, ben honnêtement, dans la réalité, c'est négligeable l'effet de faire vacciner ton enfant par rapport à ce que le système immunitaire doit combattre lorsqu'il se retrouve dans un monde soudainement rempli de bactéries. Donc, ça, c'est un autre argument qui, j'espère, va faire tomber cette crainte-là de faire vacciner ses enfants. Je le rappelle, là, ça, c'est quelque chose qui occupe vraiment les générations plus récentes, là, parce que les plus vieux là, qui ont vécu l'avant-vaccination et qui ont vécu les files d'attente pour aller enfin se faire vacciner contre des maladies comme la poliomyélite ou ainsi de suite, qui étaient terribles. Je pense que ceux-là ne voudraient pas revenir en arrière parce qu'ils ont connu le avant, les vaccins. Ils ne voudraient surtout pas qu'on revienne en arrière.
Et le plus triste là-dedans, ce que tu entends souvent comme contre-argument, ils disent « Ouais, mais prouvez-nous, hors de tout doute raisonnable, qu'il n'y arrivera rien. » Ça ne marche pas de même, la science. Tu ne peux pas prouver hors de tout doute raisonnable quelque chose qui arrivera pas.
Exactement.
Tu comprends? Tu peux pas mettre une garantie de 100%.
Exactement.
Donc, eux se défendent, puis c'est ça, ils peuvent pas nous le dire, ils peuvent pas nous le garantir.
Exactement.
Il y a rien. Dans ce cas-là, tu crois rien dans la vie parce que ça arrivera jamais, tu sais.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment, on est vraiment dans la différence entre la croyance
c'est
et la connaissance. C'est du
dogmatisme, là, carrément.
C'est vraiment, je ne crois pas à, mais pourquoi tu crois pas à? Ben, ça, c'est évidemment, c'est une discussion qui est difficile à régler. Mais effectivement, ce qu'on sait, par exemple, c'est que depuis qu'il y a ces vaccins-là, ben, il y a plusieurs maladies qui ont pratiquement été éradiquées sur le globe. Donc, ça a pas mal marché de ce côté-là.
On est dans le même genre de sujet, puis on y reviendra dans un instant. Les fake news sur Twitter, à quelle vitesse se propagent-elles?
Voilà.
Monsieur Martin Carly, on parle de...
It's all fake news.
Et sa propagation de ces fake news, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Twitter, il y a une étude qui a été dévoilée cette semaine, faite par un chercheur du MIT. Et il s'est... l'idée de cette étude-là a germé dans sa tête lorsqu'il a vu ou lorsqu'il a lu un peu tout ce qui se diffusait sur l'attentat du marathon de Boston en 2013. Donc lui... est un résident de la région de Boston, puisque le MIT, c'est à Cambridge, c'est à côté de Boston. Et donc, il a dû bien voir ce qui était vrai par rapport à ce qui était faux dans ce qui se propageait. Il a voulu voir c'est quoi l'impact de ces fausses nouvelles-là. Et surtout, est-ce que c'est qui les propage, ces fausses nouvelles-là? Est-ce que ce sont des bots, donc des genres de robots informatiques, ces petits systèmes automatiques qui partagent des informations en ligne, qui sont à blâmer? Ou est-ce que c'est les gens, carrément, qui sont plutôt à blâmer? Son étude... illustre notamment le fait que des bots, ces petits robots-là, sur les réseaux sociaux, sont tellement nouveaux qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, puis on ne connaît pas vraiment leur impact. On croit notamment que ces petits robots-là peuvent modifier une nouvelle, mais dans le fond, non, ces robots-là sont autant en mesure de propager les vraies que les fausses nouvelles.
Okay.
Donc, ils ne modifient pas les nouvelles pour essayer de corrompre l'actualité, si on veut. Et non. Ils ont utilisé 12 ans de données. Tu vas voir l'étendue de la patente, là. 12 ans de données Twitter. Donc, Twitter a commencé en 2006. Donc, depuis le tout début de la plateforme, essentiellement, ils ont pris toutes les données de Twitter. Ils ont isolé les tweets qui étaient liés à des nouvelles qui ont été analysées par 6 organisations de vérification des faits, donc de fact-checking, pour reprendre le jargon, si on veut, notamment Snopes.com, puis politicalfacts.org,
Oxbusters et autres.
Suite, exactement. Donc, 6 organisations qui ont vérifié des nouvelles. Donc, ils ont isolé des tweets qui ont été analysés par ces organismes-là. Résultat, ils ont sorti de toute la base de données Twitter 126 000 nouvelles qui ont été partagées 4,5 millions de fois par 3 millions d'individus différents. Donc, là, c'est la base de données est énorme.
Large.
On s'entend. Eh bien... ils ont par la suite, à partir de ce bassin de nouvelles-là, comparé la propagation des fausses nouvelles et des vraies nouvelles, parce qu'ils savaient, grâce à l'analyse de ces organismes-là. Eh bien, voici les résultats, puis ces résultats, franchement, sont assez alarmants. Premièrement, ils se sont rendus compte que les vraies nouvelles vont rarement atteindre plus de 1000 utilisateurs. C'est très rare qu'une vraie nouvelle va atteindre 1000 personnes sur le réseau social. De un. Les fausses nouvelles, et surtout les plus pernicieuses, vont souvent dépasser les 10 000 utilisateurs. Donc, juste dans leur portée, une fausse nouvelle a 10 fois plus de portée qu'une vraie nouvelle.
Est-ce qu'il explique le pourquoi de ça ou c'est juste...
Oui, et on va y venir à ça. Par la suite, ils ont voulu voir c'est le type de nouvelles qui était plus... le type de fausses nouvelles plus partagées. Et là, on arrive dans le préambule ici. C'est souvent dans le domaine politique que ça pose problème. Donc, des fausses nouvelles de nature politique posent problème, bien entendu. Et ils ont utilisé des technologies sophistiquées pour détecter la présence de bots, donc de ces petits robots-là, pour éliminer les nouvelles propagées peut-être par ces petits robots-là. Ils se sont rendus compte qu'honnêtement, ces robots-là là, avaient peu d'impact dans ce phénomène-là. Ce sont les gens qui ont le plus d'impact là-dessus. Alors, ils ont voulu savoir, est-ce que ce sont les gens qui ont plus ou moins d'abonnés qui propageaient ces nouvelles-là? Mais curieusement, ce sont ceux qui ont le moins d'abonnés qui propagent plus les fausses nouvelles, ah ben. De un. Et je te rappelle qu'elles atteignent facilement les 10 000 utilisateurs. Là, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, ça va à 10 000 utilisateurs pareil, imagine-toi. Et deuxièmement, lorsqu'ils ont regardé les tweets comme tels, et là, on arrive à ta question, Mathieu, ils se sont rendus compte que... les tweets qui contiennent une fausse nouvelle contiennent souvent une nouvelle information. Donc, une information que peu de gens ont vu passer sur Twitter déjà. Donc, l'attrait de la nouveauté, de la surprise est là dans ces tweets-là, premièrement. Et deuxièmement, ce sont souvent des nouvelles qui engendrent des réactions plus émotives. Donc, on parle souvent surprise ou dégoût. Et ce sont donc des facteurs très humains qui font que ces nouvelles-là sont partagées. On est plus attiré par des nouvelles qui sont nouvelles, carrément, et par des nouvelles qui engendrent plus d'émotions, donc...
qui sont extraordinaires.
Voilà, exactement. Ah, ça m'écœure, ou oh my God, je savais pas ça.
Ouais.
Et on se met à partager. Donc, cette étude-là, quand même, nous donne une idée de l'ampleur du problème de ces fameuses fake news-là, de l'importance pour les grosses plateformes comme Facebook, Google, ainsi de suite, d'installer des garde-fous contre ça, mais aussi d'avoir plus de science pour comprendre le phénomène, pour mieux les contrecarrer, ces fausses nouvelles-là, parce que, pourquoi? Ça cause de véritables problèmes. Dans le cas du marathon de Boston, pour terminer là-dessus, ben on a émis des rumeurs sur des suspects qui n'avaient rien à voir avec l'attentat. Et quand c'est toi le suspect sur les réseaux sociaux, ben ta vie peut devenir rapidement un enfer.
Si vous avez le temps de mettre la main sur le Globe and Mail aujourd'hui, il y a un dossier fascinant de 2 pages sur Facebook et justement sa façon de gérer la fausse information. Puis des gens qui ont travaillé, puis les commissaires de protection à l'information, puis ils se demandent jusqu'à quel point les législateurs aux États-Unis, entre autres, ne devraient pas se mettre le nez là-dedans.
Bien.
Puis là, tu sais, là, c'est une espèce de lutte en disant la liberté d'expression versus une limite gouvernementale sur la façon dont tout ça se propage. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'à l'interne, eux-mêmes sont complètement dépassés sur quelle façon tout ça, ils ont perdu le contrôle de sa machine.
Et imagine, ici, là, au 98.5, j'ai déjà parlé dans le cadre de ma chronique que le simple fait de mettre un ordre différent dans les résultats de recherche Google pouvait affecter la perception d'un candidat politique ou un autre de 1 à 2 % et les élections se gagnent en 1 à 2 %. Donc, le problème des fake news là, est un problème très grave dans le domaine de la politique.
Martin Carly, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Bonne semaine à toi. Il est 11h41.